Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette dernière conférence, en tout cas en ce qui me concerne, sur ce Satis, et pas des moindres conférences puisqu'on a un panel de haut de gamme avec nous. Donc c'est une conférence où je voulais parler de motion design et de VFX, puisqu'en plus on aura une annonce de ScanTricky à la fin, enfin, ou en cours de conférence. Donc on va parler de cinéma et d'audiovisuel et de motion design et de VFX, sachant qu'on parle de métier de passion et de passionné, et qu'on a des artistes qui peuvent avoir des voies détournées pour arriver à ces métiers. On va parler de formation, de conseils, c'est peut-être aussi ce qui vous attire ici. Les différents intervenants qui vont se présenter, donc je vais aller très rapidement, Mathieu Colombel, qui est cofondateur et dirigeant du studio Black Mill, Paris, Nantes, Montréal. ScanTricky, qui autrefois était journaliste de presse écrite, qui va nous en parler un peu et qui maintenant dirige Motion Sense. Je le prononce bien ?
C'est ça.
Et Antoine Schirer, qui est motion designer devenu réalisateur et journaliste. Je prononce mal peut-être ?
Si.
C'est bon ? Et voilà, qui fait des enquêtes, de l'analyse vidéo, qui travaille pour la BBC. Il va nous en parler un petit peu plus. Donc je vous laisse peut-être très brièvement, puisqu'après on va voir des images, c'est plus sympa, mais vous dressez votre parcours.
Je commence. Donc moi, Mathieu Colombel, j'ai 39 ans aujourd'hui, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis un passionné de cinéma depuis que je suis tout petit, puisque mes parents étaient des gens qui regardaient beaucoup de films, et notamment des films des années 40, 50, 60, 70, notamment les films de Hitchcock et les films de James Bond. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais des problèmes de sommeil, et donc du coup, je descendais souvent devant la télé avec mes parents, et en fait, ils me laissaient regarder le début de tous ces films-là, et les débuts de tous ces films-là, c'est les génériques de films. Et cette manière de raconter les histoires par de la métaphore graphique est un truc qui a commencé à m'obséder. Et en fait, très rapidement, je me suis lancé corps et âme à comprendre comment est-ce que, en fait, on devenait title designer, motion designer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, à cette époque-là, donc on était, quand je suis sorti du bac, on était en 2000, il n'y avait absolument pas de formation sur ce domaine-là. Le motion design était d'ailleurs un métier qu'on ne comprenait pas, en fait, à cette époque-là en France. Et de fil en aiguille, à force d'aller voir des CIO, des gens qui forment, il y en a un qui m'a envoyé un flyer d'une école qui se lançait, donc qui s'appelle Yartube, qui était la première école à former des motion designers. Je suis sorti de cette formation 5 ans après, au moment où il y avait la digitalisation des agences de publicité, et donc j'ai été repéré par une boîte qui s'appelle TBW à Paris, qui est une agence de com, qui m'a fait travailler pendant 5 ans. J'ai créé le premier pôle motion en France au niveau des agences de pub à ce moment-là. Et puis en 2011, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer du coup Black Mill, donc studio qui a fêté ses 11 ans il y a quelques semaines, donc qui est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Et à côté, du coup, je défends mon métier toujours en tant que porte-étendard, puisque j'écris un livre sur le métier qui doit sortir en 2024, octobre 2024. Et je suis conférencier et je donne pas mal de cours et j'ai dirigé des écoles qui forment aux cultures et histoires du motion design. Voilà.
Top. Rapide, efficace.
Eh bien, comme tu le disais, en effet, je viens du journalisme. En tout cas, j'ai commencé ma carrière en tant que reporter pour le journal Le Soir en Belgique, mais il s'avère que j'ai toujours été passionné par l'image. Donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup de nuits à étudier, beaucoup de sacrifices à me consacrer à cet apprentissage. Et depuis 2014, je travaille dans l'industrie visuelle et peu à peu dans l'industrie du cinéma. Tu parlais d'une petite annonce et en effet, je peux maintenant dire que j'ai bossé sur Black Panther 2 pour le studio Perception. Maintenant, il est sorti au cinéma, il est sorti officiellement hier, donc on peut l'annoncer. Et en effet, après la carrière dans la télévision, j'avais décidé de quitter le salariat en 2019 parce que j'étais motion designer, mais pour des chaînes de télévision. Et mon dernier poste était motion designer, directeur technique pour la chaîne de télévision LN24. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de lancer mon propre studio de motion design et la besogne roule. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine.
Moi j'ai un peu fait le chemin inverse de Scan. En fait, j'ai commencé par le motion design. Encore avant même, j'ai commencé à j'ai rencontré l'image animée en faisant des vidéos de breakdance, parce que je faisais du breakdance, j'en fais toujours d'ailleurs. Et un peu, voilà, j'ai commencé à filmer, voilà. Ensuite, j'ai ouvert After Effects pour faire des intros, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, puis continué. J'ai appris en DUT, qui est SRC, qui était MMI maintenant, puis dans une école en Suède qui s'appelle Hyper Island. Et Pendant quelques années, j'ai travaillé comme freelance pour des agences à Paris. Et un peu vers 2015, j'ai eu envie de trouver autre chose, sans doute une forme de sens pour moi en tout cas. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de travailler sur des documentaires ou pour des reportages, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Le Monde. Et j'ai participé à créer un peu ce que fait Le Monde aujourd'hui en vidéo, peut-être que certains connaissent. Et donc, moi j'étais motion designer là-dedans. Et de fil en aiguille, je suis devenu moi aussi journaliste et réalisateur. Et puis aujourd'hui, je travaille pour la BBC. Depuis quelques années, j'utilise notamment beaucoup la 3D, le design, pour expliquer au sein d'équipes avec des journalistes d'investigation des enquêtes un peu complexes. Et voilà.
Parfait. Donc du coup, on va regarder un peu des images maintenant. Sur ce thème, vous allez aborder l'aperçu de votre activité. Alors on va regarder les démos sans le son, c'est plus simple, comme ça vous allez pouvoir parler dessus. On commence, bon, on va garder le même ordre. Mathieu, du coup... Donc ta bande démo, ta vidéo, c'était celle-ci.
Tout à fait. C'est la vidéo de nos 10 ans.
Ah, s'il veut bien la lire.
Ça n'a rien à voir.
Ça. Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas la lancer ? Faut que je la lance autrement.
Allez, c'est bon. Alors sans le son, c'est un peu bizarre. Parce que comme tout showreel... Le son participe quand même beaucoup à la qualité de ce qu'on regarde. Donc c'était la vidéo de nos 10 ans où on a montré un petit peu ce qu'on avait fait sur la dernière année, sur l'année qui a précédé. Chaque showreel qu'on a fait, généralement on met les boulots qu'on a fait le plus récemment. Donc on a travaillé pour Black Mill, c'est aujourd'hui à peu près 75 clients par an. On fait à peu près 250 vidéos tous les ans. On travaille pour un peu tous les secteurs, mais quand même principalement pour la communication. Il faut savoir que chez nous, 85% de nos budgets, ce sont des annonceurs en direct. On travaille directement avec Danone, directement avec Quartus, directement avec des grandes boîtes. La très grosse majorité de nos clients sont des grands comptes. Mais on travaille aussi pour le cinéma, ça nous arrive de faire des génériques. On travaille aussi pour de l'événementiel, quand on fait de la projection et ce genre de choses-là. Mais principalement, c'est quand même les métiers de la communication. Dans nos gros clients aujourd'hui, on a principalement du Orange, du Asmodée, on travaille pas mal avec Kellogg's et puis ouais, avec pas mal de comptes un peu partout dans le monde, mais quand même principalement français.
Top. En plus, t'es juste calé avec ta bande démo, t'as pris juste le temps pour... Efficace. Bon, on va changer, on va venir sur Antoine. Hop. Plutôt la deuxième ?
Ouais, je pense, parce qu'en fait la première, je pense que c'est ce que je faisais il y a 5 ans.
Alors, qu'est-ce qui me fait ? Est-ce qu'il veut bien la lancer ? Le truc, c'est que... Voilà.
C'est celle-ci ? Alors, oui, c'est celle-là. Ben voilà, donc ça c'est des extraits de vidéos d'enquête, pareil il y a la musique normalement, mais où voilà, donc je vais venir utiliser les outils de l'animation en fait pour expliquer, spatialiser là ce genre de carte comme ça. Ben voilà, ça c'est en Russie, filmé lors des manifestations contre la guerre en Ukraine récemment. Ça c'est quelque chose au Nigeria où on utilise la 3D pour expliquer voilà une explosion de pipeline qui en fait, pour chaque projet, il faudrait en parler. C'est très long, mais ça va très vite, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez un peu le genre de choses. Là, c'est une affaire de pas très loin d'ici, en Seine-Saint-Denis, de violence policière, que du coup, voilà, on explique avec de la 3D. Et voilà, donc pour un peu mettre en spatialiser, expliquer le travail d'enquête qui parfois est difficile à saisir uniquement avec du texte. Donc, et voilà, ça c'est sûr, peut-être que sur l'affaire Adama Traoré, où on avait essayé de visualiser en recoupant les témoignages des différents policiers, quelles étaient les versions qui s'opposaient sur cette affaire. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses que je fais.
Ok. Bon, on reviendra sur, si tu veux, on pourra la redétailler celle-ci, puisque le but c'est après que tu nous parles justement dans ton travail de journaliste, comment est-ce qu'on associe travail de journaliste et motion design, c'est assez intéressant. Hop, on va passer du coup sur le travail de scan. Donc normalement,
Alors, en effet, je ne vais pas forcément commenter les images, mais ici, c'est un melting pot de plein de choses qui sont testées pour des projets. Il s'avère qu'en motion design, on a beaucoup plus de liberté pour narrer, pour visualiser, que dans les effets spéciaux, où on a des pipelines beaucoup plus contraints avec des logiciels qui sont souvent les mêmes. En motion design, l'important, c'est la narration. Et après, les outils, ça peut être même une feuille de papier, pourvu qu'on raconte et qu'on transmette un message. Donc, en effet, dans le showreel, on peut se permettre de mettre tout, de la 2D, de la 3D, de l'animation image par image, que ça soit d'utiliser des logiciels qu'on pratique dans les VFX, c'est valable aussi pour le motion design, ça n'a pas de limite. Et c'est pour ça que par exemple dans les studios, parfois ça a une limite un peu floue. On ne sait pas trop où mettre le motion design, dans quel pipeline ça peut s'intégrer, parce qu'on peut se permettre de tout faire dans ce métier. C'est ça que j'adore dans le motion design, c'est que c'est un métier où on peut énormément expérimenter et mêler le physique ou les logiciels, voilà, c'est ce que j'aime dans ce métier. Alors, en effet, je bosse de peu à peu pour l'industrie du cinéma. Là, ça a été terminé par deux steel frames faits pour Dune. C'est un long chemin aussi parce qu'il y a énormément de choses à tester, mais voilà, c'est aussi une belle aventure.
C'est intéressant que tu redétailles effectivement ton parcours jusqu'au VFX, puisque c'est presque le Graal que tout le monde recherche, de pouvoir travailler pour le cinéma. Je pense qu'on est... C'est un rêve... pour tous les passionnés.
Oui, ça dépend de chacun. Moi, en tout cas, c'est mon rêve depuis longtemps, oui.
Voilà. Donc, maintenant qu'on est rentré un petit peu déjà dans des images et pour voir les univers de chacun, on va aller détailler les choses. Je pense que c'est intéressant, Mathieu, qu'on... effectivement, tu as la casquette qui va bien pour nous parler du motion design, donc pour nous, pour tout simplement répondre à la fameuse question de la proposition. D'abord, de dire qu'est-ce que c'est que le motion design, de nous proposer une définition du motion design. Je crois que tu as préparé quelques éléments pour ça.
Tout à fait. Comme je disais, pour beaucoup de métiers, en fait, quand on n'a pas la racine et la base du métier, c'est très difficile de le définir. Donc, il faut aller faire un travail de recherche. Donc, c'est aujourd'hui la grosse partie de mon travail. C'est d'aller comprendre d'où en fait vient ce métier et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué de le définir en France. Ce que vient de dire Scan est tout à fait vrai. En fait, je pense qu'on a, nous, déjà, français et francophones, un peu de mal avec les termes qui sont anglo-saxons. Et en fait, du coup, on a tendance à un peu tous donner notre définition. Mais en fait, sachez-le, motion design, c'est déjà une contraction. C'est la contraction de motion graphic design. Et en fait, quand on n'a pas tout en entier, c'est compliqué de le définir. Et en fait, la définition de design graphique, graphic design, elle est déjà établie depuis très longtemps. Donc en fait, à partir du moment où on a la définition de design graphique, on a la définition du motion graphic design. C'est aussi simple que ça. La définition de design graphique qui est établie, c'est comment est-ce qu'on fait passer un message, une idée avec une représentation visuelle. Tous les mots sont importants dans ce que je viens de vous dire. Ce qui veut dire que le motion graphic design, c'est comment faire passer une idée ou un message avec une représentation visuelle en mouvement. Représentation visuelle, puisque, comme le disait Scan, ça ne s'attache pas à une technique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une représentation visuelle de plein de manières différentes. Et le mot motion est important aussi parce qu'on n'est pas simplement des animateurs. On peut travailler effectivement en vidéo, on peut travailler sur plein de manières de faire bouger les choses de manière assez différente. Quand on regarde l'histoire de notre métier, et c'est marrant parce que c'est on va dire, l'origine du design en général. Ce que j'aime bien dire d'ailleurs dans notre métier, motion graphic designer, on est en premier lieu designer, ensuite on est graphiste, et à la fin, on anime tout ça. Et chacune des parties définit un tiers de qui on est. En tant que motion graphic designer, on est forcément un tiers de ces chaque partie en quelque sorte. Donc quand on creuse, quand on voit un peu l'origine du métier, c'est effectivement les premiers à avoir fait bouger les choses, c'est début des années 1920, quand on a eu les constructivistes russes qui ont commencé à remettre en question absolument tout ce qui nous concerne en termes d'image, qui se sont dit, en fait, le monde de l'image, de manière générale, c'est une sorte de dictature du monde de l'art, qui fait qu'en fait, ils considèrent que l'art est inutile. Et ils disent qu'en fait, eux, ils veulent de l'utile et du fonctionnel, ils veulent avoir des images qui véhiculent des messages. Et en fait, ils vont remettre en question beaucoup de choses. Tu peux passer à la slide d'après. Ce monsieur, il s'appelle Alexander Rodchenko. Il fait partie des personnalités qui ont effectivement commencé à contribuer à faire avancer les choses au niveau du monde de l'image, et notamment par la photographie, qui était quelque chose qui n'existait pas dans le monde artistique avant. Et du coup, le mouvement constructiviste russe commence à, de 1920 à 1929 exactement, commence à créer des affiches, commence à créer des flyers, commence à créer des choses qui vont véhiculer des messages et des idées. Et c'est marrant parce que dans l'histoire de notre métier, comme on disait, en fait, c'est un peu le Graal de travailler dans le cinéma, les designers graphiques, enfin ce qu'on appelait les artistes commerciaux à l'époque, ont commencé à travailler dans le cinéma. Ils faisaient les affiches pour, effectivement, les films de russes, etc. Ce qui était assez intéressant dans leur approche, c'est que déjà, à cette époque-là, ils utilisaient plein de techniques techniques différents. Ils s'en foutaient complètement des codes, ils cassaient complètement les règles. Ils mélangeaient photographie, typographie, ils mélangeaient couleurs, ils mélangeaient formes. Ils travaillaient en mode bidouille. Souvent, on dit d'ailleurs que les motion designers sont des bidouilleurs. Ces personnes-là étaient vraiment des purs bidouilleurs. Et il y avait un autre concept qui était intéressant dans ce qu'ils faisaient, c'est que tout ce qu'ils produisaient n'était pas du tout voué à rester. C'était quelque chose qui était éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisaient une affiche et la majorité des affiches qui ont été produites pendant cette période-là ont complètement disparu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là du pouvoir de l'image sur les gens, de manière générale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, les artistes commerciaux, les affichistes, les graphistes, ce qu'on a appelé plus tard les designers graphiques, ont une capacité à capter l'attention des gens. Par ce qu'ils produisent. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 20, vous le savez tous, c'est qu'il y a eu une énorme crise financière, et juste derrière, il y a eu pas mal de personnes, dictateurs, qui sont arrivés au pouvoir. Et les dictateurs, à ce moment-là, tout ce qui va être Hitler, Staline, etc., ils ont bien compris que l'image était quelque chose qui était incroyablement efficace pour effectivement rassembler les gens, fédérer les gens, etc. Et en fait, il y a une grosse partie de ces personnes-là qui se sont cassées de Russie, qui se sont cassées d'Allemagne, qui ont créé d'autres mouvements. Il y en a une grosse partie qui sont partis en 1940 aux États-Unis et qui ont participé à la naissance du mouvement du design qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Dans toutes ces personnes-là, vous avez un mouvement qui s'est appelé le Bauhaus, qui a été créé à Weimar en Allemagne, que vous connaissez peut-être, c'est 17 personnes qui ont remis en question tout ce qui nous entoure et qui se sont dit, en fait, tout ce qui est architectural, tout ce qui va être de l'ordre de l'image, tout ce qui va être de l'ordre de l'objet, on va aujourd'hui penser à faire de l'utile et du fonctionnel. Le mouvement du design, en fait, est né là. Donc là, on était dans les années 30, dans les années 40. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que notre métier à nous, en tant que motion designer, il est apparu aussi à ce moment-là. Vous avez une personne qui s'appelle Alfred Hitchcock, hein, qui a commencé à faire des expérimentations. Il s'est rapproché de designers graphiques, donc de personnes qui, c'est pas lui. Hein. Lui, c'est Saul Bass. C'est le papa de notre métier, d'accord ? Alfred Hitchcock, donc Saul Bass a beaucoup travaillé avec lui, Alfred Hitchcock se rapproche de graphistes, de designers graphiques, qui font des affiches, et il anime ces affiches. Et en fait, il prend l'affiche, il donne des effets de lumière dedans, etc. C'est pour un film qui s'appelait The Lodger, 1924. Et en fait, c'est aujourd'hui, quand on creuse, un des tout premiers motion design, tout première création de motion designer plutôt, qui voit le jour. Saul Bass, donc que vous le sachiez, donc a travaillé avec Alfred Hitchcock, on considère que c'est notre papa puisque c'est celui qui a le mieux expliqué ce qu'était en fait le travail de motion design. Hormis la définition que je viens de vous donner, il explique qu'en fait son travail c'est de prendre plein d'informations complexes, prendre la trame narrative globale du film et d'en faire un condensé métaphorique. Le générique d'un film, c'est comment est-ce qu'on va vous raconter une partie de l'histoire pour faire en sorte de vous donner suffisamment envie, de vous capter, pour faire en sorte que vous ayez envie de voir le film derrière. Aujourd'hui, on le sait, il y a des personnes comme Alexandre Wiomtilski, qui a une émission sur Arte qui s'appelle Blow Up, je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait pas mal d'analyses de génériques. On le sait aujourd'hui, un générique de qualité, et évidemment une affiche de qualité, participe au succès du film de manière assez énorme. C'est-à-dire que vous avez beau faire un générique pour un film de merde, si le générique il est bien, le film risque de marcher. J'ai plein d'exemples d'énormes génériques qu'on fait, des très très gros cartons, et pourtant c'est des énormes films de merde. Petite anecdote aussi, ce générique-là, si tu peux lancer, c'est celui d'après, mais ouais, voilà, lance-le. Donc, je montre souvent ce générique-là dans mes conférences. Donc, ce générique-là, c'est pour le film Vertigo, d'accord ? Donc, c'est 1958, donc c'est Saul Bass. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce générique, c'est que ça a été une sorte de déclencheur chez Saul Bass. Saul Bass, il supportait pas le fait que les gens aillent au cinéma et en fait se posent, s'assoient, on va dire, dans la salle et que en fait le film est commencé pour lui. Parce que avant les films, vous aviez les cartons typographiques avant qui étaient là pour annoncer les acteurs, les réalisateurs et ce genre de choses. Et en fait, les gens, c'était une partie qui les intéressait pas, donc en fait, ils s'asseyaient, machin, etc. Lui, donc qui était le designer graphique, était le responsable, on va dire, de l'identité graphique du film, supportait pas que le film ne commence pas à la première image. Et donc du coup, il a dit, moi les affiches que je ferai, quand je les animerai, je veux que les gens soient scotchés à leur siège. Je peux vous assurer que ça, en 1958, quand vous avez des spirales comme ça qui tournent sur grand écran, vous faites attention de pas vous casser la gueule, donc vous êtes assis à votre siège. Donc 1958, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ces spirales que vous voyez là, elles ont été générées par ordinateur. D'accord ? 1958. Vous imaginez la gueule de l'ordinateur. D'accord ? Ce qui veut dire que déjà à cette époque-là, il réfléchissait à comment est-ce qu'il allait produire quelque chose qui était singulier. La singularité, c'est un des piliers du motion design. Chercher à produire quelque chose qui va être original, qui va être singulier. Je vais avancer très très rapidement dans le temps. Comme je disais tout à l'heure à Loïc et à Scan, c'est des conférences que je fais généralement sur 8 heures. Donc je fais 4 fois 2 heures pour expliquer toute l'origine de ça. Et en fait, tu as une autre vidéo qui est importante, qui date de 1995. 1995, c'est une date clé pour nous, parce qu'il y a une sorte de bond dans le temps, d'un point de vue technique. Ce générique, le générique de Seven, qui date de 1995, à l'époque que Kyle Cooper était dans une boîte qui s'appelle RGA, qui a été fondée par Richard et Robert Greenberg, qui étaient les personnes qui avaient fait les génériques de Superman, à l'époque, dans les années 70. Kyle Cooper, il a un peu bouleversé les codes de ce qui se faisait en termes de générique, parce que, je vous l'ai dit, le générique est là pour vous donner envie, vous raconter une partie de l'histoire. Lui, il va vachement plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, dans ses génériques, il vous raconte toute l'histoire. Il y a plein de données, plein de choses, plein d'images subliminales, etc., qui font qu'en fait, vous vous dites, putain, j'ai eu plein d'informations, et en fait, quand vous regardez le film, vous vous dites, mais ça, je l'ai déjà vu, et en fait, ça vient de ce qu'il vous a raconté avant. Kyle Cooper, il a été formé à l'université de Yale. D'accord. Il a un master de design graphique, donc ça me fait toujours marrer quand il y a des gens qui disent que Kyle Cooper n'est pas un motion designer. Il a été formé par Paul Rand, qui était un des plus grands designers graphiques du XXe siècle. Et Paul Rand, du coup, a formé Kyle Cooper, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands motion designers du XXIe siècle. Beaucoup de motion designers disent « Moi, j'ai commencé à faire du motion design quand j'ai vu le générique de Seven ». Il y a trois personnes qui font que je fais ce métier. Il y a Maurice Binder qui a fait les génériques de James Bond. Il y a Saul Bass, évidemment, avec les génériques de Hitchcock, et il y a effectivement Kyle Cooper avec le générique de Seven, et tout ce qu'il a fait après, il a fait plus de 300 génériques. On a parlé de Marvel, ce que vous aviez avant chaque Marvel, vous savez, le flip de tous, c'est Kyle Cooper qui l'a inventé. D'accord ? Donc 1995, c'est une date clé pour nous, parce que c'est devenu impossible de produire du contenu graphique, notamment pour le cinéma, sans utiliser un ordinateur. On commençait à en voir de plus en plus. Après, les choses se sont accélérées dans les années 2000 avec la digitalisation des agences de publicité, comme je vous disais. En fait, on a eu pendant presque 80 ans, quand un motion designer voulait travailler, il avait deux terrains de jeu. C'était le cinéma ou la télévision. C'est aussi simple, c'était là où il y avait le mouvement. C'était très simple. À partir de 2000-2005, là, on a eu un nouveau terrain de jeu qui est arrivé, qui est le web, où en fait, d'un seul coup, on s'est dit, mais en fait, on a la possibilité de communiquer en vidéo de manière infinie presque. Quand il y a eu l'apparition de la DSL, enfin du haut débit chez les gens, c'est là où en fait, 2006-2005, quand vous avez YouTube qui est arrivé, quand vous avez Facebook qui est arrivé, c'est là où en fait notre métier a complètement explosé, mais de manière exponentielle. Aujourd'hui, souvent les gens me posent la question en disant, mais le métier n'est pas saturé au niveau du motion design? Il ne l'est pas du tout. Ça, je vous le dis, il y a deux fois trop de travail par rapport à ce qu'il y a à produire. On est même en pénurie de motion designer complètement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, plus tard vous me les poserez. Parce que quand je commence à parler de motion design, c'est très compliqué pour moi de m'arrêter, je vous le dis. Tu as la slide qui est juste avant, parce que souvent en fait je finis mes conférences avec celle-là. Donc, ce que je dis souvent, motion designer est avant tout un designer graphique. Donc on met nos idées et toute notre vision en mouvement, on est des créatifs. Souvent je cite cet exemple-là pour en fait donner la différence entre ce qu'on va appeler un technicien et ce qu'on va appeler un créatif. Une personne qui est profondément poussée sur la technique va toujours chercher à résoudre un problème technique. Forcément, c'est son métier. Et un créatif, quand il va être face à un problème technique, il va chercher comment est-ce qu'il va contourner cette problématique technique. Et en fait, quand on contourne, on innove, et quand on innove, on est singulier. Donc on va toujours chercher à contourner en tant que créatif pour produire un contenu qui est singulier. La slide d'après, donc nous on utilise la métaphore graphique. Souvent en fait je donne cette image là pour raconter en fait la différence entre un illustrateur et un designer graphique. Quand vous cherchez à représenter quelque chose, quand vous êtes un illustrateur, on va vous demander de représenter une maison. Vous allez faire une maison en fonction de votre univers à vous. En tant qu'artiste, vous allez produire quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc vous allez faire, si vous me demandez à moi par exemple de vous faire une maison, je vais vous faire une longère bretonne avec des ardoises, des géraniums, un grand soleil, parce qu'il fait toujours beau en Bretagne, on est d'accord, Et après, vous allez poser la question aux gens de qu'est-ce que c'est. Et en fait, les gens vont potentiellement vous dire que c'est une maison au départ, mais après, ils vont rentrer dans les détails de tout ce que vous avez produit. Ils vont dire, il y a des géraniums, il y a un grand soleil, ça doit être la Bretagne Nord, c'est l'agneau à côté de Guingamp, etc. Et puis en fait, vous allez donner plein d'éléments parasites. Parce qu'en fait, en soi, on s'en fout, c'est pas le message qui compte dans l'illustration, c'est la qualité de ce que vous allez produire. Quand vous demandez à un designer graphique de vous faire une maison, il vous fait un carré, un triangle. Et la planète entière a compris ce que c'était. Donc on utilise la métaphore graphique pour l'efficacité du message. Et dans notre métier à nous, souvent c'est le cas aussi, c'est qu'on va aller à l'efficacité pour faire en sorte de faire passer notre idée, notre message. On va éviter d'utiliser des éléments parasites qui vont faire que les gens ne captent pas forcément le message tout de suite. Et donc c'est un métier très personnel qui se construit autour de son univers. C'est la slide que je mets pour la singularité, où je dis en fait souvent que le métier de designer ou de motion designer, c'est le travail que nous, on a envie de produire, qui va se marier avec le travail, avec l'identité graphique de notre client, de la personne qui commande en fait le film qu'on a à produire. Et en fait, le mariage des deux fait qu'on a logiquement que des films qui sont uniques à chaque fois. D'où ce pilier de la singularité. C'est clair pour chacun d'entre vous ? Voilà, je répondrai à vos questions après, si vous voulez.
Top, merci beaucoup. Très clair et bel exercice de condensé de choses beaucoup plus longues. Du coup, je vais me retourner vers toi. On va peut-être reprendre peut-être les éléments de ta démo. Est-ce que tu veux qu'on monte ta première démo ou...
Comme
tu veux. On va détailler les choses. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que quand Scan a suggéré que tu participes et a vanté ton travail, il m'a parlé du coup, effectivement, du côté réalisateur et journaliste. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on mélange du motion design pour raconter des histoires. Donc comment est-ce que tu conçois, comment est-ce que tu fais ça et comment est-ce qu'on peut raconter une histoire en motion design? Quelles sont les longueurs des films que tu fais? Comment est-ce que tu les conçois? Est-ce que vous travaillez en équipe? Peut-être même quels sont les budgets? Enfin voilà, c'est des choses un petit peu rentrées dedans. Et comment est-ce que tu en es arrivé finalement du motion design au journalisme? Alors peut-être regarder ta première bande démo que tu me dis un petit peu plus ancienne, mais ça peut être intéressant justement de voir tes productions...
Ok, elle date de 2014, je crois. C'est pareil, c'est un peu comme les autres démos qu'on a vues tout à l'heure, c'est un peu un pêle-mêle de plein de choses, avec mes premières expérimentations en 3D, et c'est des travaux essentiellement pour soit de la publicité, soit des... Ça c'était un exercice d'école, ça c'était de la publicité pour des téléphones... Et il y a des expérimentations perso aussi. Ça, c'est un générique d'une émission de télé. Ça aussi, c'était pour une émission de télé. Ça, c'est un peu de breakdance. Enfin, c'est de la danse debout, pour être exact. Et ça, c'était pour une émission de télé aussi. Et ben voilà, Bob, ça c'est vraiment ce que tu as décrit. Je pense que je suis l'un de ceux qui a découvert le motion design vers 2005. Moi, c'était plus avec des clips de musique que j'ai découvert. Il y a notamment un clip, je me souviens, d'Hocus Pocus, avec des animations de typo que peut-être certains connaissent. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me mettre à ça. Ben voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai travaillé pour des agences, des studios de design ou des agences de communication. Alors, je veux bien que tu me reposes une...
Alors, en revenant sur ce que tu viens de dire, toi, tu n'as pas fait d'école spécifiquement pour arriver...
J'étais refusé en école d'audiovisuel, donc j'ai fait une UT qui s'appelait SRC. Ouais. Il y a pas mal de motion designers finalement qui l'ont fait, enfin en tout cas que moi je connais, qui étaient en fait les métiers du web. Et donc j'ai appris un tout petit peu le motion design, en fait on a juste mis le pied à l'étrier, et j'ai aussi appris à coder, à faire à faire des sites web, les bases du design graphique aussi, donc plutôt pour des interfaces, mais qui voilà en fait m'ont vachement servi.
Et l'autre question du coup c'était vraiment sur ta casquette de réalisateur. Okay. Avec du motion design, qu'est-ce que c'est que réalisateur avec motion design? Sur quelle longueur de film tu le prends? Comment est-ce que tu réfléchis? Alors, on voit ce que c'est que réalisateur, où on va scénariser, éventuellement faire du storyboard d'ailleurs, mais on en fait aussi au motion design. Ça peut être intéressant ça d'ailleurs d'évoquer comment est-ce qu'on fait du storyboard pour du motion design. Mais maintenant,
ouais, okay.
Dédié au journalisme, est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que du coup il faut que ce soit des thèmes particuliers ou tous les thèmes se prêtent à ça? Comment est-ce que... Enfin, si tu veux, on peut mettre aussi des images de ta...
Ouais, tu peux la faire tourner ou je peux éventuellement...
On peut s'arrêter, alors si j'arrive, sinon j'irai rechercher l'autre parce que...
Souvent, là, moi ces dernières années, j'ai travaillé au début au Monde, c'était beaucoup pour expliquer, faire des vidéos, ce qu'ils appelaient des explainers, des vidéos explicatives sur des sujets en lien avec l'actualité. Et donc il y avait... après, ça peut... Voilà, ça, on peut... On, on, le motion design est utile. Par exemple, voilà, pour expliquer, par exemple pour les cartes, enfin, c'est, voilà, c'est un truc très simple, vous avez peut-être vu le dessous des cartes déjà, des programmes où on explique la géopolitique avec des cartes, et bien, c'est typiquement ce genre de choses, où du coup on va venir allumer un pays pour expliquer, et puis utiliser... Voilà, ça peut être des flèches, enfin, voilà, je sais, enfin, voilà, vous voyez un peu le genre de truc, j'imagine. Ça peut être aussi pour animer des graphiques, pour faire des statistiques. Voilà, je dis n'importe quoi, on fait un sujet sur les impôts en France. Je me souviens avoir fait ça pendant les Gilets jaunes pour expliquer le ras-le-bol fiscal des Français. Et donc, on avait pris des travaux de sociologues un peu complexes et animé toutes ces données pour l'expliquer. C'est comme tu as dit. Il y a des informations complexes au départ et on va venir essayer d'utiliser les outils du design pour les rendre le plus clair possible.
Retrouver ta vidéo, comme ça on va pouvoir s'arrêter sur le keynote. Il ne veut pas s'arrêter le keynote. Donc je vais récupérer.
Et donc, alors du coup, je continue un petit peu. Ouais. Comme sur la fabrication de ces vidéos, effectivement, ça commence toujours sur une. Enfin, maintenant, c'est des Google Docs, j'allais dire une feuille vierge, mais c'est plutôt des Google Docs maintenant, où tout ça se pense au script, c'est ça. Et donc, il peut y avoir il peut y avoir des inspirations, il peut y avoir des idées déjà des éléments déjà produits des fois, c'est-à-dire des. Mais la première phase, c'est l'écriture, et essayer de. Clarifier les informations qu'on a. Donc, c'est là que le designer va être est utile. C'est-à-dire, au départ, moi, j'étais pas du tout journaliste et j'étais juste avec mon expérience de motion designer et je venais en dialogue avec un journaliste qui, lui, avait toutes les informations complexes. Et moi, je lui dis, ah bah tiens, on pourrait le faire comme ci, comme ça. Alors, bon, ça, par exemple, ça, c'était un plan un peu plus d'introduction. Je la fais tourner peut-être pour m'arrêter sur quelque chose, je vais voir. Mais alors ça c'est pareil, c'est des plans plus. Mais voilà, ça c'est par exemple, c'est un peu des. Peut-être je vais voir un autre exemple plus clair. Ben voilà, ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire, on veut expliquer où une vidéo filmée dans une manifestation a été prise pour que le spectateur puisse se rendre compte un petit peu. Et donc voilà, on la positionne là, c'est avec une image satellite et on la localise et on vient zoomer pour. Faire apparaître la vidéo. Donc ça va très très vite, mais du coup voilà, en quelques secondes on peut raconter, et sans la voix du coup, pas besoin de l'expliquer, la voix peut parler d'autre chose, de quoi on parle et où a été filmé, le contexte, etc., etc. Et on va faire des choix là de. Mince, pardon, je voulais faire un peu dessin. Ouais, voilà, enfin oui, non, en fait je passe là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près à la question, mais c'est là, par exemple, c'était une autre façon, voilà, de faire. C'est-à-dire, on voulait expliquer, donc c'est une explosion de pipeline qui avait lieu. Les causes officielles de l'explosion étaient un accident. Enfin, c'était la réponse des autorités locales que c'était un accident, grosso modo. Sauf qu'en fait, non, il y avait une vidéo. Le journaliste avait trouvé une vidéo où on voit une énorme fuite de gaz avant l'explosion, ce qui prouvait que, en fait, les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, et ce qui était pas, voilà, documenté. Donc, pour l'expliquer. Ben là, je fais un petit modèle 3D qui n'est pas très très beau d'ailleurs parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. On voit les bâtiments un peu qui sont un peu, voilà. Alors ça, c'est les contraintes de mon métier à moi par rapport au vôtre peut-être. C'est-à-dire que souvent, il y a très peu de temps. C'est des, voilà, mes chefs me disent, bon ben là, tu te débrouilles comme tu veux, explique-le du mieux que tu peux, mais tu as 2 semaines ou alors tu as 3 jours. Donc du coup, mon boulot, c'est d'essayer de trouver une solution qui est la plus claire possible pour expliquer ce truc-là.
Du coup, précise ça justement, quelles vont être les demandes typiques qu'on va te donner sur la durée, quelle durée de film tu dois réaliser, le temps que tu as, quel temps tu mets à le penser et quel temps tu mets à le créer.
Voilà, dans la presse, c'est pas un scoop que je révèle là, c'est le secteur est en tension, notamment en France, il y a grosso modo peu de moyens pour, donc souvent moi au Monde, quand je travaillais au Monde, c'était des temporalités, on avait en général quelques semaines pour produire une vidéo, donc c'était ça, pour faire toutes les animations d'une vidéo comme ça qui pouvait faire 15 minutes 20 minutes pour expliquer toute l'affaire, où il y a peut-être 6-7 minutes de motion design, je sais pas, c'est ça, j'avais 2 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Donc,
2 semaines pour 6-7 minutes de motion design, c'est...
Donc en fait c'est pas du tout le même contexte que le vôtre, c'est ça, et parfois c'est même moins. Bon, moi aujourd'hui je travaille pour la BBC où là on a un peu plus de temps, je fais des films un peu comme Cache Investigation, ce genre de choses, ou Envoyé Spécial, où il y a du coup, c'est des films qui sont faits sur une temporalité plus longue, genre 9 mois, quelque chose comme ça. Donc là je vais avoir, moi, Alors, purement pour le motion design, en général, c'est ça, il va y avoir un gros mois de production en général. Mais souvent qui peut être anticipé, parce que maintenant, travaillant moi dans les équipes avec les journalistes, je commence en avant, je participe aussi aux enquêtes moi maintenant, et voilà. Et mes compétences d'ailleurs techniques sur la manipulation de vidéos, l'expertise aussi pour stabiliser des images qui se coupent, pour les stabiliser par exemple, il commence à y avoir des profils un peu comme moi qui viennent aider les journalistes d'investigation justement pour venir révéler des choses. C'est un peu ce que je fais là sur la séquence d'après, pour venir un peu. Voilà, par exemple, là, c'était une vidéo qui était très agitée, qui secouait dans tous les sens au départ. Et en fait, en la stabilisant, on peut révéler des informations. Là, par exemple, vous voyez, on va voir sur le côté à droite, on voit que la vidéo, elle bouge un peu. On va peut-être, je crois qu'on va la voir. Non, on la voit pas trop, en fait. Mais c'était une vidéo à la base qui secouait. Et du coup, en la stabilisant, on peut rendre les choses compréhensibles pour le spectateur. Où voilà, on voit la personne avancer et tirer avec une arme de police. Donc voilà, c'est comme ça que je trouve ma place aujourd'hui dans ces équipes aussi,
Peu pêle-mêle. Donc là, c'est des projets où c'est pas que du motion design, c'est pas que des vidéos en motion design, ça s'intègre sur de la vidéo aussi.
Et moi maintenant, je travaille comme réalisateur, c'est-à-dire que en fait, souvent, c'est toutes ces séquences-là, elles s'inscrivent. Comment dire, c'est exactement ça, tout est mêlé ensemble, c'est-à-dire que là on passe d'une séquence live avec de la stabilisation d'image, avec une surcouche avec une surcouche de visuel là-bas, on va passer dans un modèle 3D où il y a ce qu'on a fait un frame match où voilà, on transitionne dans le modèle 3D pour venir expliquer quelque chose. Donc c'est des séquences qui se pensent en fait. Ouais. Et grosso modo, finalement assez vite j'ai cheminé vers le journalisme parce que c'est plus simple le chemin est plus court entre l'idée et la main qui l'exécute en quelque sorte. Et
là, c'est toi qui modélise tout en 3D.
Là, ouais. Ces projets-là, c'est moi. Mais des fois en équipe, souvent en équipe. D'ailleurs, j'ai du renfort, mais c'est moi qui les réalise effectivement, enfin qui les pense. D'accord. Et qui en fait une bonne partie. Parce que de toute façon, il n'y a pas de moyens.
Même si c'est pas le plus important, mais ça peut être intéressant.
Moi, je travaille avec Cinema 4D parce que c'est celui que j'ai appris au départ. Mais beaucoup de si c'était à refaire, j'apprendrais Blender. Voilà.
Ok.
Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais je peux passer la parole.
Non, c'est très intéressant, c'est vrai que c'est du coup des visions totalement différentes et où toi tu arrives du motion design au journalisme. Du coup, toi, ce que tu n'as pas appris, le journalisme, tu l'as appris après
C'est ça, je l'ai appris en faisant au contact des journalistes qui font ce genre de choses, ouais. Et par ailleurs,
pour arriver dans le journalisme, ça s'est passé comment? C'est des gens du journalisme qui sont venus vers toi? C'est toi qui as été vers eux?
Eux, ils cherchent. C'est au Monde que c'était au Monde que j'ai commencé. Eux, ils cherchaient un motion designer pour leur équipe. Et moi, du coup, comme ça m'intéressait, mais j'y suis allé vraiment, j'étais très impressionné. Et la première année, je crois que j'avais beaucoup de mal à donner mon avis. En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui vient qui manie comme vous pouvez m'entendre là probablement, je suis pas celui qui manie la langue française du mieux qu'il soit. Donc au début j'étais très impressionné, petit à petit j'ai pris confiance en moi et je suis devenu assez force de proposition. Mais oui, enfin moi je pense que je serai jamais journaliste de presse écrite. Vous pouvez pas lire mes éditoriaux enflammés. mais oui, en tout cas voilà, je fais ce boulot là en tout cas de journaliste audiovisuel en fait, où maintenant j'écris des scripts et des choses comme ça. Ouais.
Et quand on pense au journalisme, pour juste finir sur cette partie journalisme, on pense chiffres, on pense peut-être, on avait parlé de termes comme data, visualisation ou des choses comme ça, c'est des choses que tu utilises aussi?
Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup dans cette bande démo là, mais oui, complètement, animer des graphiques, des camemberts, même si des camemberts en fait j'en fais plus, mais pour plein de raisons, mais enfin voilà, ça peut être... Oui, tout à fait. L'animation de data, j'aurais dû en mettre dans ma bande démo pour ce truc-là. Mais oui, tout à fait.
Top. Alors du coup, on va peut-être passer à Scan, qui est passé, lui, du journalisme, vraiment gratte-papier, non?
Oui, en effet, c'était du reportage écrit.
Du reportage
publié,
écrit,
gratte-papier. Publié en physique, dans le journal. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par l'image, mais... L'artiste qui m'a donné envie de faire du motion design, c'est Patrick Lair, que tu connais, grand main title designer, qui a fait aussi True Detective, qui est un peu un exemple en titrage de générique. Mais en fait, avant de faire du générique pour le cinéma ou pour la télévision, il était graphiste, dans la télévision, notamment pour la chaîne ABC. Et il a fait une célèbre série d'épisodes qui s'appelle Hungry Beast. Et notamment, quand je voyais, d'ailleurs, les archives sont sur YouTube, elles sont sur Vimeo, quand vous regardez son travail, notamment sur l'explainer Stuxnet, qui était un virus qui a d'abord attaqué des centrifugeuses nucléaires iraniennes, quelque chose comme ça. Quand j'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis dit, mais je veux apprendre ça pour mettre en avant l'information, pour la visualiser. Et un jour, je lui ai envoyé un mail, voilà, et il m'a dit, Illustrator, After Effects, Cinema 4D. D'accord, je plonge dedans. Alors, j'ai toujours été sensibilisé à l'image. Mon père est artiste peintre, il m'apprend à dessiner depuis tout petit, mais il faut dire que ça n'a rien à voir avec ce domaine. Même si on peut avoir un feeling pour l'art et l'image, là, on doit apprendre des outils from scratch. Le seul outil que j'avais appris depuis tout petit, c'était Photoshop, pas plus. Un petit peu Premiere Pro à l'école, mais voilà, c'est là tout le parcours d'apprentissage pour apprendre à visualiser l'information. Donc j'ai commencé à faire ça pour les médias. Un jour, ce qui a décollé le chemin, c'est un jour j'ai fait une vidéo pour le Nouvel Observateur sur les attentats liés en fait à Bruxelles, parce que les frères Abdeslam ont habité Molenbeek à Bruxelles, vraiment au centre de Bruxelles, et j'avais fait en fait une enquête qui mêle la vérification des infos sur le terrain, mais aussi la traduction en motion design avec des cartographies, notamment un mix avec Google Earth et After Effects. Et puis là, il y a des gens qui sont commencés à venir vers moi en disant « On aimerait bien que tu fasses ça », notamment un gars qui est fort connu en Belgique, qui s'appelle Diamant Van Acteur, qui m'a engagé dans son agence et on a testé plein de formats. Et ça a vraiment décollé comme ça. Mais vraiment, au départ, c'était faire de la vidéo pour visualiser l'information. Et Patrick Clerc m'inspirait énormément. Après, il a switché vers le titrage de générique pour la télévision et le cinéma, et je n'ai cessé de le suivre et de tâcher d'aller de plus en plus loin, en fait.
Ouais. Donc toi, tu es autodidacte en motion design.
Oui, j'ai fait aucune école à ce niveau-là.
L'école que tu as fait, c'est une école de journalisme.
Ouais, j'ai pas terminé l'école de journalisme parce que j'ai surtout profité d'opportunités de faire des stages grâce aux écoles. Et puis, c'est le soir qu'ils m'ont engagé en tant que pigiste.
Ouais.
Et voilà, je dis, j'ai pas besoin de l'école, je me casse. Donc, voilà. Mais en effet, en termes d'apprentissage, c'est un apprentissage quotidien. Il y a d'excellentes plateformes comme School of Motion qui délivrent plusieurs semaines de formation et ça permet d'aborder le métier, de l'apprendre en profondeur, d'avoir des professionnels dans l'industrie qui vous suivent et critiquent votre travail. Donc c'est important aussi de se confronter aux autres et de recevoir des conseils de gens beaucoup plus expérimentés, comme en France, un motion designer qui est bien plus âgé que nous, qui s'appelle Bruno Quintin, qui a écrit plusieurs livres sur After Effects. Il m'a souvent accompagné pour apprendre ce domaine et pour me guider dans l'apprentissage également,
ouais.
Notamment pour comme j'aimais bien faire des habillages puisque je travaillais en télévision, c'est typiquement faire des templates et de faciliter le travail des journalistes avec des templates automatisés comme on a parlé souvent
pour dernière,
plein de chaînes. Voilà, en effet, l'année passée on en a parlé.
Alors on va parler un peu de VFX puisque motion design VFX, c'est quoi la différence du coup, toi qui es arrivé au VFX et qui travaille pour les studios Perception et d'ailleurs tu vas nous dire pour qui tu travailles et ce que tu fais et quelle est la différence et comment t'en es arrivé là.
Alors pour l'instant je travaille pour Movie Pictures Company qui est un studio qui appartient au groupe Technicolor, mais en effet l'année passée j'ai eu l'occasion de bosser pour Perception qui font pas mal de titrages de génériques et des effets spéciaux pour Marvel. Mais comme le disait Mathieu, la frontière entre le motion design et les VFX, c'est le domaine d'où ça vient. C'est avant tout, le motion design, c'est un message. En effet, quand on fait du motion design pour un film, on peut appeler ça des effets spéciaux. C'est des outils tout à fait différents, parce que là, c'est Cinema 4D et After Effects, mais en général, dans les effets spéciaux, on utilise dans la pure simulation, imaginez un robot qui tombe sur un bâtiment et le bâtiment se détruit. Ben là, c'est typiquement un workflow entre Houdini, Maya et Nuke pour le compositing. C'est pas les mêmes outils, mais c'est toujours pour construire une image. C'est juste que ce sont des compositions différentes qui ont des exigences différentes. C'est plus facile de faire des interfaces 2D, 3D pour les acteurs quand ils appuient sur des interfaces holographiques avec After Effects Cinema 4D qui sont orientées et prévues pour faire cela.
Ouais, c'est ce que m'avait expliqué Perception. C'est vraiment leurs outils, c'est ça. C'est
tout à fait.
After Effects Cinema 4D.
Tout à fait. Ben, comme Territory Studio, comme beaucoup de studios qui font de l'interface utilisateur ou même pour des génériques. Beaucoup de... Pour citer Patrick Clerc, les génériques de True Detective, il y a une partie 3D dans ce générique, c'est fait sur Cinema 4D. Voilà. Bah, c'est souvent des outils communs, hein. Mais ce qui va changer l'approche, c'est la singularité. C'est le travail de la direction artistique. C'est quelle technique on va pousser le plus loin possible, avec quoi on va mêler ces techniques. Typiquement, c'est surtout la recherche de départ. Après, faire l'image, une fois qu'on sait où on vient, l'image n'est pas compliquée à faire. C'est surtout toute la recherche en amont qui doit être réfléchie et documentée.
Ok, j'ai une question pour vous trois, du coup, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est aujourd'hui, quels sont les métiers et les débouchés du motion design? Parce qu'il y a des catégories de métiers, et comment est-ce qu'on y va? Quelles portes on pousse? Voilà, ou même, on reviendra peut-être sur la formation, mais comment... Quand on n'a pas d'idée préconçue, voilà. Comment on aborde ça?
Alors, déjà pour commencer, pour le motion design, ce n'est pas une typologie de film. Le motion design, c'est un métier. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vois, à partir du moment où tu captes que c'est un métier et que ce n'est pas une typologie de film, en fait, tu te rends compte que c'est une famille. Le motion graphic design, tu as plein de typologies de métiers d'interface animée, comme tu parlais, de personnes qui vont faire du générique de film, donc qui vont être des title designers, etc., mais qui font partie de cette famille-là. Donc, en gros, quand tu commences à regarder tout ce qui va être design animé ou design en vidéo, tu te rends compte qu'en fait là, les possibilités elles sont infinies. Dans les écoles dans lesquelles je suis passé, où j'ai écrit des formations, tu sais qu'une personne va rentrer dans cette école-là et au bout de 5 ans elle va sûrement faire un métier qui n'existe pas encore. On sait qu'aujourd'hui 80% de la communication passe par la vidéo et donc on sait que les possibilités en motion design sont presque infinies. En plus, tu as des terrains de jeu qui arrivent quasiment tout le temps maintenant. Tu as évidemment la VR, l'intelligence artificielle aussi d'ailleurs, l'AR, tu as l'AXR, tu as plein de possibilités en fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure avec Scan, en fait en soi, en termes de possibilités et de besoins, c'est, en fait, on n'imagine pas à quel point c'est énorme aujourd'hui. Il y a, je disais deux fois, mais je pense qu'il y a trois fois plus de travail qu'il y a de personnes sur le terrain aujourd'hui. Et je dis ça, c'est le cas partout dans le monde. En France notamment, à Montréal, pour y être assez souvent, c'est encore pire. Voilà, il y a, c'est un métier qui où en fait on casse des règles tout le temps. Donc en fait, j'ai envie de dire que tu peux te lancer dans ce métier-là et prendre une branche auquel tu t'attendais absolument pas. Donc on est, je pense qu'on est tous les trois assez représentatif de ça. C'est, tu te lances en te disant moi je veux faire du générique de film, et en fait tu te rends compte que au fur et à mesure ça glisse et que tu vas faire complètement autre chose. Voilà, de mon côté c'est ce que je dirais.
En effet, pour rajouter la pénurie, c'est que il y a une demande qui est forte, qui est exponentielle. Le motion design est autant dans votre smartphone que sur Netflix, que sur de l'interfaçage web avec des animations vectorielles en JavaScript. Donc c'est un domaine qui est très vaste. En effet, c'est en pénurie. Récemment, des studios de cinéma à Londres ont dit qu'il nous manque 21 000 créatifs. C'est énorme ce qu'il y a à apprendre. Mais c'est juste parce que la demande est exponentielle et il n'y a pas de ces gens, tout simplement. Bon, c'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, il y a de la besogne, hein, ça, c'est sûr.
Le métier de designer, c'est à la base, hein, quand je parle d'utile et de fonctionnel, ça veut dire qu'on répond à des problématiques. C'est-à-dire quand il y a une problématique en vidéo, on a besoin d'un motion designer. On est dans un monde où on n'a jamais eu autant de problématiques. Donc autant vous dire que dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a un besoin de vidéo, il y a besoin d'un motion designer. Et une typologie de motion designer, donc un title designer, un UX designer, un UI designer, enfin bref, énormément.
Alors d'accord, d'ailleurs il y a une question qui me vient. Toi tu as la tête de studio de motion design, et finalement tes clients, c'est d'autres studios qui viennent chercher une partie, ou c'est directement le client final ou...
Alors, ce que je disais tout à l'heure, plus de 80% de nos clients aujourd'hui, c'est des annonceurs en direct. D'accord. C'est des gens qui viennent, ils ont une problématique. Typiquement, si je peux citer un exemple, il y a 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui, avec le Covid, ont commencé à remettre en question leur utilité en tant qu'entreprise, en se disant, en fait, il faut qu'on commence à communiquer sur notre film d'entreprise, c'est-à-dire notre why, le pourquoi est-ce qu'on existe. Et en fait, il y a beaucoup de films d'entreprise qui sont sortis sur, justement, l'explication en vidéo de qui nous sommes, de graphiquement à quoi on ressemble, etc. Et ça, c'est typiquement un boulot de motion designer dans notre métier. Donc, on a eu beaucoup de demandes de films d'histoire, d'ADN de l'entreprise à ce moment-là. Ouais.
Et vous mixez, avec le motion design, c'est du motion design pur, ou il vous arrive de mixer avec de la vidéo?
Alors, le motion design pur, ça n'existe pas. Le motion design, comme je te disais, c'est pas une typologie de film, c'est pas une technique. C'est-à-dire qu'en fait, un motion designer, il va travailler sur la technique qu'il souhaite en fait en soi. Comme je citais Kyle Cooper tout à l'heure, Kyle Cooper est donc formé designer graphique, quelqu'un qui est très très influencé par les personnes qui ont été constructivistes, etc. Il ne travaille qu'avec sa caméra. C'est-à-dire qu'en fait, il compose des images en termes de design graphique, en termes de son œil, avec sa caméra. Mais en fait, il n'y a pas de règle. C'est juste cette volonté de répondre à une problématique par la vidéo.
Ok. Et alors, du coup, si on parle des écoles qui peuvent, des voies d'accès à ces métiers-là, quelle est votre opinion par rapport aux écoles? Alors, on ne va pas, peut-être pas citer des écoles, mais en tout cas, est-ce qu'il y a besoin de faire une école? Est-ce qu'on peut être encore autodidacte aujourd'hui?
Je ne vais pas faire que parler, hein, je vais laisser les autres parler. Hein. Mais si je parle de comment est-ce qu'on regarde le métier, encore une fois dans l'histoire, le métier de designer, le métier de graphiste, le métier de motion designer, ça fonctionne beaucoup par le maître et l'apprenant. Ce qui veut dire qu'en fait, souvent, on a une personne qui va être référente pour nous, donc une personne qui est notre idéal, et qui va nous former, ou qui va être une personne proche de cette personne-là qui va nous former. Et en fait, l'apprentissage, il peut s'apprendre comme ça. Ce qui veut dire qu'en gros, si, comme Scan, il y a une personne que tu vas contacter et que tu vas apprendre par toi-même par rapport à ce que cette personne te renvoie, etc., l'apprentissage, il peut se faire complètement de manière autodidacte. Il faut avoir une sacrée motivation, parce que c'est quand même énormément conséquent. Dès qu'on commence à vouloir produire plein de contenu, bah, il faut piocher dans plein de choses, donc il faut être sacrément motivé. Après, effectivement, il y a des écoles, publiques ou privées, qui vont effectivement avoir cette logique-là de se dire, bah, en fait, on met des intervenants, des maîtres qui vont effectivement partager leur savoir avec l'étudiant, et en fait il y aura un apprentissage comme ça d'échange. Ouais. Par contre, ce ne sont pas des formations qui vont forcément être exclusivement techniques, c'est justement des formations qui vont être énormément sur l'échange, sur le côté je te montre comment moi je fais, mais ce que je fais moi et pas la manière forcément que tu vas faire, c'est tu comprends comment est-ce que ça fonctionne et retranscris-le à ta façon à toi. Donc même chose que ce que je disais par rapport aux typologies de films tout à l'heure. Au niveau de la formation, moi, ce que je dis en tout cas par rapport à mon opinion et de ce que j'ai creusé, même chose, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est d'avoir envie de répondre à les problématiques et effectivement d'apprendre plein de choses. Cette soif, cette curiosité, c'est une de nos particularités, nous, au niveau de notre métier, c'est qu'on a besoin de faire de la veille graphique, de la veille technique, d'aller piocher des choses tout le temps. Et comme disait Scan tout à l'heure, en fait, on apprend dans ce métier-là tous les jours.
Ouais. Alors, j'avais un échange avec Kukewo, qui est aussi, du coup, du coup, j'allais dire motion designer, mais
c'est
créateur de génériques, en fait, ouais. Avec énormément de génériques à son actif, dont
Silent Hill, il en a fait beaucoup.
Plein d'autres, ouais. Et qui est très très demandé. Et lui, alors du coup, il me racontait un peu son parcours, qui est un peu similaire. Moi, j'ai fait. On a commencé le motion design à peu près à la même période que. Enfin, moi, j'ai commencé à peu près à la même période que lui, où on pouvait connaître par cœur l'outil, en fait. Nous, quand on a commencé, enfin, je pense que c'est pareil, sans aura, peut-être. Bon, on va pas parler d'âge, mais effectivement, il y a des moments où on apprenait After Effects, et After Effects, on pouvait l'apprendre par cœur presque, parce que c'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Voilà, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on arrive, la marche, elle est tellement grande qu'on peut être complètement perdu. Et au final, lorsqu'il me disait, bon, ça, c'est presque plus une remarque. Un peu où il titillait, mais il se disait, en face de ce qu'il y a comme possibilité aujourd'hui, il s'attendrait à ce qu'on ait des œuvres beaucoup plus créatives, mais en même temps, effectivement, c'est assez compliqué au départ d'appréhender tout de suite une marge d'outils. Donc en fait, si vous démarrez le motion design aujourd'hui ou les VFX aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est essayer de structurer votre apprentissage, parce que la démarche est tellement grande. Donc il y a plein de produits. D'ailleurs, je pense que toi, quand tu as appris beaucoup avec des tutos, j'imagine. Comment tu as fait d'ailleurs pour ta démarche d'autodidacte pour apprendre?
Ouais, c'est ça, j'ai fait des tutos sur je sais plus s'il y avait du YouTube déjà à l'époque quand même, je sais pas. Et moi, ça a été beaucoup Grayscale Gorilla à l'époque, et puis voilà, un peu un pêle-mêle de plein de choses, mais oui, j'ai tout appris par internet, clairement. Et puis quand même après, au contact, évidemment, une fois le pied à l'étrier, on va dire, au contact de collègues et de choses comme ça. Ouais.
Et après, en essayant de regarder et de refaire des choses que vous aviez vues, enfin, je sais que moi je travaille beaucoup comme ça. Tu m'avais cité Scan, toi aussi, je pense que c'est peut-être intéressant. Alors, bon, on va pas forcément donner tous les noms, mais il y a des boîtes de formation en ligne ou des choses qui sont intéressantes. Est-ce que tu entends quelque chose qui marque
le tout premier cours de motion design, enfin pas de motion design, mais After Effects que j'avais fait, c'était un ancien cours sur Eleform d'un vidéaste qui s'appelle Alexis Martinez. J'avais fait un cours d'After Effects là, et puis je faisais régulièrement une veille pour savoir les ressources d'apprentissage qu'il y avait là-bas. Puis il y a eu Andrew Kramer, Video Copilot, que beaucoup de motion designers connaissent. Mais en effet, il y a des plateformes qui structurent davantage l'apprentissage, comme Grayscale Gorilla ou School of Motion. School of Motion a la particularité de proposer des cours qui durent plusieurs semaines, avec des assistants professeurs et des professeurs qui accompagnent l'élève avec des devoirs réguliers à remettre. Donc là, c'est pas vraiment de l'autodidacte, on se fait vraiment accompagner, c'est comme si on était dans une école. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on côtoie aussi des gens de l'industrie qui peuvent faire nous connaître le domaine. Parce que, certes, on peut apprendre dans son coin, mais travailler en équipe, recevoir des conseils, avoir des inputs sur ce que c'est l'industrie, comment on travaille dans l'industrie, comment on s'y adapte et comment on y évolue, c'est très important également. Et ce n'est pas nécessaire de connaître un programme par cœur. Ça n'a aucune utilité pour moi de connaître Cinema 4D ou After Effects par cœur. Par contre, c'est intéressant d'adapter le logiciel à l'approche créative. Ça veut dire que beaucoup de personnes que j'ai formées étaient bloquées dans la technique, disant hey, « je ne sais pas faire grand-chose techniquement et je ne sais rien faire en fait ». Non, non. D'abord, réfléchis à la créa. Essaye de t'ouvrir à la démarche que tu veux avoir. Et ensuite, tu adaptes la technique à la créa. Et tu passes par tous les chemins possibles pour arriver à cette image-là.
Je reviens à ma question. Alors, elle va s'adresser à tout le monde. Est-ce que vous utilisez des storyboards pour travailler sur vos produits? Et comment est-ce qu'on crée un storyboard en motion design? Je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu.
Moi, ça va être très bref, mais je peux vous compléter. Parce que vous, c'est des storyboards plus complexes. Moi, c'est très concrètement, c'est des tableaux à deux colonnes. C'est ce qu'on appelle ça storyboard, mais c'est des Google Docs à deux colonnes où on va mettre le script. Moi, pour les vidéos, les reportages que je fais, le script de la vidéo. Et à droite, on va, avant de se lancer dans quelques boulots créatifs que ce soit, parce que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, on va essayer de penser ce qu'on met à l'image. En général, nous, avec les contraintes de temps que j'ai, on va pas plus loin. On fait pas non plus des storyboards vraiment.
Donc tu fais quand même des petits dessins.
Mais c'est ça, des petits dessins et ce genre de choses. Mais voilà, pour, je pense, vous, dans vos métiers, c'est l'étape de storyboard est, j'imagine, beaucoup plus développée.
Alors, du coup, quand même, pour finir, tes petits dessins, tu y rajoutes des mouvements, les mouvements que tu vas faire sur les éléments.
Oui, c'est très... c'est vraiment l'idée, c'est d'arriver au sein de l'équipe à comprendre et à penser tous ensemble le film qu'on veut faire. Donc c'est ça, ça peut être où? Ça peut être du copier-coller de Google, ça peut être des petits dessins.
En fait, l'étape avant tout, c'est le message. Que ça soit dans les effets spéciaux ou le motion design. Dans les effets spéciaux, s'il n'y a pas de plate, c'est-à-dire le live action, la scène, même si c'est sur fond bleu, on ne sait pas mettre d'effets spéciaux dessus. On peut commencer à travailler des techniques, mais on ne sait toujours pas travailler la perspective de caméra et le message que souhaite le réalisateur. Mais comme en motion design, il faut un message, il faut un script, en fait. Que ce soit deux lignes ou alors tout un script d'une voix off pendant 2-3 pages. Mais tout part de là. Parce que c'est le message qui va imposer l'approche, qui va inspirer une créativité. Et c'est sur base de ce script qu'on peut faire une découpe des plans. Un storyboard, coupe des plans. À ce moment-là, on fait des croquis. Et les flèches peuvent suggérer le mouvement. Une fois qu'on est en accord sur ce canevas-là avec le client ou le réalisateur, on peut commencer à designer des images finales. Faire ensuite une animatique pour qu'il se rende compte du rythme entre la voix off et l'animation. Et quand on est raccord sur ça, on peut composer les images finales, le rendu, le compositing, etc.
L'animatique, tu la ferais avec quel outil?
Alors l'animatique, on peut le faire avec un programme de montage, Premiere Pro ou After Effects. Ça peut être des images et des croquis synchronisés avec une voix off. Hein. Ça peut être ça, une animatique.
Filmer à l'iPhone, faire des tests à l'iPhone, on va faire des
choses. C'est un brouillon d'animation.
Ouais.
Pour rajouter un petit peu, nous on a toujours fonctionné comme ça, moi je fonctionnais déjà comme ça dans les années 2000 en fait. Le storyboard est indispensable puisqu'il fait partie de la pré-production. La pré-production, c'est à peu près la moitié du temps chez nous pour créer un film. C'est-à-dire qu'en gros on commence toujours par le script narratif. Le script narratif, c'est quoi? C'est en gros la personne qui raconte l'histoire, ce qui peut se transformer en voix off ou pas. Il faut savoir que nous, nos films, pour être efficaces, on sait qu'on ne doit pas dépasser une minute dans les films que nous on produit, hein, puisqu'on perd 80% de l'attention des gens au-delà d'une minute sur des messages de communication, sur notre métier à nous. Ce qui veut dire que un script narratif, c'est la moitié d'une page. Donc la personne raconte l'histoire, c'est la voix off. À ça, on va rajouter ce qu'on appelle le script d'animation. Donc, c'est en gros ce qui se passe à l'image. Et en fait, quand on combine ces deux-là, ça fait le storyboard. C'est-à-dire qu'après, on va croquer ça. Et puis en dessous, on écrit effectivement ce qui se passe en termes de voix off, ce qui est raconté. Et en fait, c'est la dernière étape de la pré-production. Et en fait, quand on envoie ça à un client, que le storyboard est validé avec effectivement script narratif et script animation, généralement, tout le reste derrière se découle de manière hyper facile. Si on n'a pas cette étape-là, on sait que le film va mal se passer. Si le client n'a pas le temps de faire la pré-production, on ne fait pas le film, nous. C'est aussi simple que ça. Donc l'étape de storyboard chez nous, elle est indispensable. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Scan, parce que c'était très intéressant. Le côté outil de ce que nous, on va utiliser, on va avoir tendance à aller tout de suite chercher ce qu'on appelle les outils bac à sable. After Effects et Cinema 4D sont des outils bac à sable. C'est des outils dans lesquels on peut travailler un peu comme on veut. On peut venir piocher un peu comme on veut, et il y a une infinie de possibilités, ce qui veut dire qu'en fait, quand les gens me disent, moi je maîtrise After Effects ou je maîtrise Cinema 4D, je leur dis, c'est impossible. Les logiciels n'ont pas été pensés comme ça. Les logiciels ont été pensés pour que justement on en fasse ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant pour justement rappeler qu'on n'est pas des techniciens et qu'on est tout le temps en train de se réinventer, c'est que quand moi j'ai commencé en 2004-2005, quand j'étais en agence, l'outil de prédilection des motion designers, c'était Flash. C'est-à-dire qu'on utilisait énormément Flash. Si le métier avait été soumis à l'outil, les motion designers n'existeraient plus. Oui. Puisque Flash n'existe plus. Donc il y a de nouveaux outils qui sortent tout le temps. Effectivement, on parlait d'Houdini, on parlait de... En fait, tout ce qui va être outil qui nous permet de faire plein de choses, qui ne sont pas des outils où on va devenir un expert technique, mais qui vont être des outils qui nous permettent de faire quelque chose de créatif, évidemment que les motion designers vont se tourner vers ce genre de choses-là. C'est très important de le rappeler.
Top, pour finir, avant de prendre quelques questions, est-ce que vous auriez un mot pour donner envie d'aller faire ce métier? Un mot en plus, le mot de conclusion.
Motion design, c'est un métier de passion, c'est-à-dire qu'en gros, comme je disais, la curiosité, le fait d'avoir envie de faire plein de choses, c'est déjà un premier signal quand on se dit, en fait, techniquement j'aime bien ça, j'aime bien m'exprimer, j'aime bien raconter des histoires. Généralement, c'est un signe qu'il faut regarder un petit peu qui sont les motion designers, ce qui se passe, etc. Quand on regarde l'histoire de notre métier, quand on commence à effectivement s'y intéresser, en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça de devenir motion designer, parce que ça passe avant tout par la passion et la curiosité, et qu'en fait après c'est qu'une question de temps. En fait, on peut commencer à travailler dans ce métier-là très facilement au bout de un an ou deux ans quand on a commencé à vraiment aller se renseigner un petit peu partout. Aujourd'hui, par rapport au travail qui est demandé au niveau des motion designers, et ça ne fait que augmenter, hein, c'est un métier où en fait, pour vous donner envie, où il y a de l'emploi, où il y a des besoins et où il y a de l'argent. Voilà.
Le conseil que je donnerais, c'est rejoins le tien, c'est ayez une volonté inébranlable, organisez votre apprentissage, faites une veille quotidienne, répétez les manipulations, parce que ça vous permet de travailler de plus en plus vite, d'être de plus en plus à l'aise dans le logiciel pour votre approche créative, et c'est d'être curieux, d'apprendre tout, de ne pas être uniquement After Effects, mais de mêler le physique, le papier, les particules, ou même de l'encre dans votre bain. Ça se limite pas. Il faut avoir une curiosité absolument pour tout, se renseigner tout le temps, faire des veilles. Par exemple, de plus en plus Unreal et After Effects sont employés avec Cinema 4D, parce qu'à ce moment-là, on a des scènes en temps réel. On peut récupérer les informations et les mouvements de la caméra de Cinema 4D et After Effects pour poser du texte en 2D. Donc tout ça, c'est juste de la curiosité en fait. Mais l'important, c'est la récurrence. C'est la veille et d'organiser votre apprentissage. Si vous abordez le métier, ne plongez pas dans 5 outils à la fois, vous allez tout oublier. Concentrez-vous sur un, et une fois que vous êtes à l'aise, vous avez fini un cours sur un logiciel, vous pouvez passer à un autre tandis que vous pratiquez le logiciel que vous avez appris en premier. Donc, bonne chance, allez-y à fond.
Je fais bien les mots de mes camarades, juste pour ajouter qu'en plus, il y a plein de débouchés possibles, et c'est souvent goupillable, si j'ose dire, avec des passions peut-être préalables que vous avez. Enfin voilà, ça peut être fabriquer des title sequences de films, ça peut être fabriquer de la publicité et faire des choses incroyables. Voilà, ça peut être comme moi, travailler pour du journaliste. Ça peut être, je sais que j'ai des copains qui travaillent avec des scientifiques pour les aider à rendre accessibles leurs travaux. Si vous adorez la cuisine, peut-être que vous pouvez faire des vidéos de cuisine avec. C'est souvent, il y a plein. Si moi j'ai un autre outil qui est amusant, qui touche un peu au cinéma d'ailleurs, j'ai un copain à moi du breakdance, qui est devenu cascadeur maintenant, et qui utilise le motion design pour présenter aux réalisateurs des films toute leur chorégraphie de baston qu'ils font. Et du coup, il va rajouter le couteau qui est lancé, et puis et donc lui, il a une espèce de niche un peu comme moi, où lui c'est le motion design pour les cascades. Voilà.
Parfait. Du coup, vous avez peut-être quelques questions dans la salle.
Vous avez pas de micro.
Alors du coup, il n'y a pas de micro, mais vous allez reprendre les questions comme ça, si c'est enregistré.
Quand vous dites organiser votre apprentissage, c'est bien. Il faut faire comment correctement pour bien apprendre?
Typiquement, tu peux faire un Google Sheet.
Alors tiens, reprends la question juste pour qu'on ait à l'enregistrement.
Donc comment organiser l'apprentissage ? Typiquement, tu peux organiser un Google Sheet dans lequel tu peux organiser tes colonnes selon les disciplines que tu aimerais apprendre ou les logiciels que tu aimerais apprendre et dans lequel, par exemple, tu mets la date à laquelle tu as commencé. Comme ça, chronologiquement, tu peux suivre ton apprentissage. Tu peux faire également une colonne qui s'appelle suivi sur tous les exercices que tu es en train de faire. Tu peux par exemple faire une colonne design, une colonne animation, ou alors une colonne cinéma 4D, une colonne After Effects, et faire une veille des cours les plus excellents que tu juges excellents et que les autres jugent également excellents. Et tu peux également lister tous ces cours en disant voilà, mon objectif c'est d'apprendre par exemple cinéma 4D, After Effects, avec toutes les inspirations des maîtres que tu aimes. Et là, quotidiennement, tu assimiles cette information et tu fais souvent une veille de ce qui est fait dans le milieu au niveau créatif.
Après, si je peux rajouter juste une chose, c'est vrai que sur ces logiciels-là, il y a quand même des bases essentielles. C'est-à-dire qu'il faut, ce qui est compliqué quand on est autodidacte, et on y échappe pas, mais c'est pas grave, mais on va souvent aller vers un détail ou un outil très précis qu'on apprendra et que dans ce qu'on va apprendre, en fait, il y a des bases qu'on n'a pas et qu'il faut aller rechercher. Donc, il faut essayer de réussir à trouver le moyen d'avoir les bases de l'outil avant de découvrir des choses. After Effects, c'est un peu ça, c'est effectivement la porte d'entrée à plein de choses. Mais il faut qu'on ait ce squelette-là avant de pouvoir aller sur des choses beaucoup plus précises, quoi.
Ah, une chose à éviter, en effet, pour te rejoindre, c'est n'apprends pas une technique spécifique. Parce que tu sauras faire cette technique, ok, mais tu n'as toujours pas compris le logiciel. Apprends les bases, apprends des cours qui sont plus fondamentaux. Et c'est souvent les fondamentaux de Cinema 4D, Introduction to After Effects, qui abordent largement la compréhension de l'outil plutôt qu'une technique spécifique.
Mais attention au piège de la technique. Ne pas oublier que c'est un métier de designer graphique. Ce qui veut dire qu'il y a des bases de graphisme à connaître. En fait, souvent on a tendance à commencer par la technique, là où en fait il vaut mieux commencer par la composition graphique, en se disant qu'en fait, et c'est pas hyper long en fait, il y a une base culturelle à apprendre. Il existe plein de livres sur le design graphique et effectivement comment est-ce que on met bien une typographie, qu'est-ce que c'est les blancs tournants, qu'est-ce que ça veut dire un interlettrage et ce genre de choses-là, la sémiologie, le sens de la forme, des couleurs, ce genre de choses. En fait, c'est des bases exactement comme le vélo, qui sont des choses qu'il faut apprendre pour comprendre cette logique-là, qui fait qu'en fait la qualité de tes créations graphiques ne va faire que s'augmenter, forcément. Puisque en fait, à force d'avoir cette logique de règles, de machin, etc., tu vas composer des images qui vont faire que graphiquement elles vont être intéressantes. Et si graphiquement elles sont intéressantes et techniquement derrière elles sont poussées, c'est là où en fait tu vas avoir une singularité et que tu vas montrer quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Parce qu'en fait, le piège de la technique, c'est de apprendre effectivement par des tutoriels ou par des cours et en fait de reproduire ce que quelqu'un fait et de ne pas savoir faire autre chose que ce que la personne a reproduit d'un point de vue graphique, forcément. Donc il faut ces bases-là. Et ces bases-là, encore une fois, je le dis, hein, c'est pas 10 ans pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. En fait, il existe des règles. Il existe des règles de composition graphique, de mise en page, de genre de choses-là, qui sont des trucs qui t'aideront toute ta vie. Voilà.
Par exemple, il y a un site qui s'appelle MoGraph Mentor. Il y a un cours nommé Mood 101. Donc c'est MOD101. C'est un cours qui est gratuit, où il accompagne l'apprentissage du motion design, du design à la conception visuelle, en passant par les piliers du graphisme, les principes du graphisme, jusqu'au rendu final. Et dedans, il y a tous des petits exercices progressifs pour composer des scènes. Il y a de même un cours gratuit de School of Motion qui s'appelle The Path to MoGraph, qui explique ce que c'est l'industrie et comment on compose déjà un titre et par quelles étapes on passe, notamment la conception, en effet. Il y a plein de ressources gratuites. Il y a des ressources payantes qui permettent d'avoir accès à un professeur, à des critiques, à un suivi au quotidien, vraiment, mais il y a énormément de ressources gratuites. Il s'agit en effet de bien ordonner tout ça, parce qu'on peut s'y perdre très facilement.
Ne pas oublier que les motion designers sont à la base des designers graphiques, sont à la base des gens qui faisaient les logos pour les films, tout ce qui était typographie et ce genre de choses-là, et qui se sont mis à faire bouger tout ça. Mais leur logique et leur formation de base, c'est effectivement le graphisme et le design, c'est hyper important, c'est primordial dans notre métier. Question ?
Aussi qu'il ne suffit pas forcément de comprendre ou de se référer à quelqu'un d'autre pour aussi un apprentissage notamment de la physique, par exemple, notamment pour la mécanique des fluides sur certains aspects de motion design, de ce que j'ai vu là. On a une qualité de l'animation ou une compréhension de comment fonctionne, je ne sais pas moi, par exemple, comme une goutte d'eau finalement qui amène à un titrage et qui crée finalement.
C'est très intéressant ce que tu dis. Et ça, ça va avec la veille graphique. En fait, je le dis souvent, nous, par exemple, au sein de Black Mill, mais on le faisait déjà au sein de TBWA, tous les mercredis matins, j'organise des petits déjeuners de veille graphique, où en fait, on va regarder des films, et généralement les films qui sont sortis la semaine passée ou la semaine d'avant, sur ce que graphiquement on a trouvé de qualité. Et en fait, c'est vrai, hein, c'est une réalité. À force de voir des films qui sont de qualité, en termes de mouvement, en termes de ce qui se fait de mieux, etc., ton œil commence à prendre l'habitude de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques de l'animation, Richard Williams, etc., tu peux apprendre des choses qui sont très très poussées au niveau de l'animation, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des techniciens de l'animation. On est des gens qui avons besoin effectivement d'efficacité en termes de mouvement et d'aller généralement à l'essentiel. Et en fait, la meilleure manière d'apprendre ça, et la manière, je trouve, la plus efficace et la plus rapide, c'est de regarder des films. C'est vraiment de faire de la veille graphique, de faire de la veille de ce qui sort, des vidéos qui ont le mieux marché la semaine passée sur des motion designers à travers le monde. Et en fait, tu te dis, bah oui, effectivement, ce mouvement-là, il est super intéressant. Tu vas pas forcément le reproduire, mais tu vois que ce mouvement-là fonctionne. Et si tu le fais toi-même et que tu le fais comme ça, tu vas dire, bah non, ça fonctionne pas, c'est pas exactement la même chose. Et tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. En fait, au bout d'un moment, en fait, ça va devenir vraiment logique. Tu vas dire, hop, c'est fluide.
Faut regarder de manière active. C'est-à-dire qu'au début, faut un peu se forcer à analyser. Et après, c'est un peu l'inverse, c'est qu'il y a un moment finalement on va faire que d'analyser tout le temps et on aurait envie de plus analyser. Mais c'est un peu ça qui alors, se passe quand...
Pour la partenaire, ça devient infernal. Parce que, ah oh, oui, c'est fait comme ça, tais-toi, tais-toi, laisse-moi regarder, voilà.
Ouais.
Et alors du coup, je vous ai entendu un petit peu en Best Balsa parler de ça, Houdini notamment. Est-ce que lui, Houdini, est capable un petit peu de générer automatiquement ce genre de déplacement? Ou alors... il vaut mieux plutôt créer depuis zéro sur Actor.
Alors, tout dépend, c'est ce que tu souhaites faire. Houdini est un logiciel de simulation. Par exemple, vous avez sans doute joué à des jeux vidéo. Par exemple, des jeux vidéo qui sont comme GTA-like, où il y a tout un environnement open world, un environnement ouvert. Par exemple, Red Dead Redemption 2 a été généré sur Houdini, tout ce qui est environnement. Donc, c'était généré procéduralement. Procédural, ça veut dire qu'à tout moment, on peut changer une valeur. C'est pas du destructif. Il y a deux choses. Il y a la modélisation procédurale et la modélisation destructive. Ça veut dire qu'une fois que votre modèle est fait, bah, c'est difficile de le mettre à jour. Procédural, on peut le mettre à jour à tout moment. Houdini est un logiciel de simulation, donc, qui est exclusivement dédié à la 3D. Et tu peux absolument tout faire. Autant du motion design que des VFX, mais parce que c'est pas, en effet, c'est pas une typologie de métier, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ce logiciel pour quelle approche et quel message va être fait. Donc,
c'est vraiment spécialisé pour
Oui, tout à fait, mais tu peux tout faire avec ce logiciel.